Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Son de cloche tous les jeudis matins de 9h à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 avec Augustin Becci.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Bonjour et bienvenue à Question de savoir, l'émission des cycles supérieurs de l'Université Laval, présentée par l'Association des étudiants et étudiantes des cycles supérieurs de l'Université Laval, l'Allier. Mon nom est Marie-Ève Duchesne et je suis attachée aux communications. L'Allier souhaite parler aujourd'hui d'un sujet très important. L'Université souhaite procéder à une modification des statuts pour parler de leur impact sur la gouvernance universitaire et de ce que l'Allier en pense. Je reçois Louis-Xavier Lamy, secrétaire exécutif de l'Allier. Bonjour et bienvenue à Question de savoir, Louis-Xavier.
Bonjour Marie-Ève, merci de me recevoir.
Ça fait plaisir. On va commencer dans le vif du sujet. Pour les étudiants et étudiantes qui ne savent pas qu'est-ce que c'est les statuts universitaires, à quoi ils servent?
Ben, essentiellement, les statuts de l'université, c'est un peu les règlements généraux là, de l'université. Donc, l'université, oui, a une charte fondatrice, mais ce qui définit, par exemple, la structure des instances de l'université, donc sa structure institutionnelle, c'est les statuts. Donc, par exemple, ça définit quels sont les pouvoirs du comité exécutif, quels sont les pouvoirs du conseil d'administration, quels sont les pouvoirs du conseil universitaire et quelles sont les commissions permanentes, qu'est-ce qu'elles font, ainsi que leur composition. Ça définit aussi comment sont choisis les recteurs ou rectrices de l'Université Laval. Donc, ça définit les paramètres du collège électoral qui sert aux élections de rectorat. Donc, essentiellement, là, il y a ces aspects-là là, qui sont particulièrement importants. Mais comme je dis, là, ça définit essentiellement qui fait quoi dans la structure universitaire et comment ça s'organise pour que le tout soit fonctionnel. Donc, c'est vraiment, je dirais, la colonne vertébrale de l'institution.
Puis, au moment où on se parle, à l'hiver 2022, on va être en élection rectorale. Donc, l'université va se doter d'un nouveau recteur. L'université procède à des changements. Ça serait quoi les principaux qu'on peut parler dans les règlements de l'Université Laval, dans les statuts qu'ils font?
Bien, effectivement, il y a cet aspect-là. Donc, cet hiver, à l'hiver 2022, il y a les élections au rectorat. Donc, nous ne savons pas actuellement si Mme Damour va se représenter. Donc, elle pourrait vouloir reconduire son mandat. Il y a la possibilité aussi qu'il y ait d'autres candidatures. Donc, effectivement, là, il pourrait avoir réélection de Mme Damour ou ça pourrait être d'autres candidats. À ce stade-ci, évidemment, comme on n'est pas rendu là nécessairement, on n'a pas encore tout à fait idée des candidatures, mais c'est quand même un aspect important parce que le collège électoral, donc qui élit le rectorat, va pouvoir se prononcer puis faire un choix qui va dicter essentiellement là, les 5 prochaines années de l'université. Ceci étant dit, là, maintenant, ça a quelques mois de nous, ces élections au rectorat. Et on a eu ce projet de modification des statuts de l'université qui est rentré, en fait, cet été. Donc, à la mi-juillet, il y a eu la proposition là, qui a été faite, là, qui a été annoncée, donc des modifications au statut. Concrètement, là, la suite du processus, c'est nous, on a jusqu'au 15 octobre, donc ce vendredi, pour se prononcer, tout comme l'ensemble de la communauté universitaire peut se prononcer sur ces modifications-là, pour essayer d'influencer quelle va être finalement la version finale qui va être présentée au conseil d'administration de l'université, peut-être en décembre. Je crois que c'est l'objectif, mais concrètement, il va y avoir du travail, donc nous ne savons pas exactement là, à quel moment ça va être présenté, mais ça va dépendre justement du travail qui a effectué.
Parce que
les principaux changements...
Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te demander. Vas-y.
Oui, donc les principaux changements, là, je voulais définir un petit peu les paramètres de toutes ces modifications-là, mais les principaux changements qu'on observe, c'est des changements que je pourrais dire qui sont à l'équilibre des pouvoirs entre les instances. Donc, à l'Université Laval, il y a le conseil d'administration qui s'occupe de l'aspect stratégique, des finances, de l'administration de l'université, ainsi de suite. Pour ce qui touche au domaine académique, c'est le conseil universitaire qui s'en occupe. Donc, que ce soit la recherche, les études, ça passe par le conseil universitaire qui est l'instance qui est au-dessus des commissions permanentes là, qui penchent justement sur les affaires étudiantes, les études et la recherche. Donc, les changements qu'on observe, c'est entre autres un changement de dynamique dans lequel le conseil universitaire perd certains de ses pouvoirs, que ce soit parfois, ce qui est problématique, c'est que c'est pas défini qui les reçoit. Parfois, ça peut être le conseil d'administration qui va les avoir, ou même, dans certaines mesures, là, ça pourrait être il y a des changements qui amènent l'influence là, du rectorat directement dans, par exemple, une nomination, certaines nominations au conseil universitaire. Donc, ce qu'on voit, pour le présenter globalement, sans entrer dans tous les aspects techniques, c'est un peu une volonté de rendre plus flexible la direction universitaire, mais c'est aussi, en un sens, une concentration du pouvoir à l'université vers le haut. Donc, entre autres, là, dans les mains du comité exécutif, sinon aussi en partie là, du conseil d'administration, mais concrètement, on voit que entre autres, là, le conseil universitaire est affecté. Sinon, il y a certains aspects aussi qui nous ont un peu déboussolés. Par exemple, certaines modifications par rapport à la nomination de l'ombudsman de l'université. Donc, l'ombudsman qui doit être une personne neutre, non partisane, socialement, cette modification-là entraîne un certain doute sur si ce ne serait pas éventuellement des nominations plus partisanes qui pourraient être faites. Donc, on a cette inquiétude-là aussi. Sinon, comme je le mentionnais, là, il y a certaines modifications aux compositions des instances. Donc là, j'ai parlé des commissions permanentes, du conseil universitaire, du conseil d'administration. La composition de ces instances-là est importante parce que c'est les personnes qui siègent sur ces instances-là qui forment le collège électoral pour les élections au rectorat. Et présentement, il y a certaines modifications là qu'on observe qui sont un peu plus... il y a certains ajouts, notamment là, à certaines instances. Il y en a qui justifient tout à fait, il y en a d'autres qui me laissent un peu perplexe. Mais dans l'essentiel, c'est les principaux changements au statut.
Puis comment est-ce que ça touche les étudiants et étudiantes au cycle supérieur? Aujourd'hui, on en parle à la question de savoir pour un peu vous permettre de voir qu'est-ce qui se passe à l'Université Laval. Comment ça nous touche, nous, les étudiants au cycle supérieur?
En fait, il y a différents aspects là, qui sont touchés plus particulièrement. D'abord, essentiellement, c'est sûr que au quotidien, quand on se promène sur le campus, on ne voit pas nécessairement l'administration de l'Université Laval, comment elle se fait, c'est quoi la dynamique institutionnelle de l'université, mais concrètement, c'est ça qui, au final, définit le cadre dans lequel on évolue comme étudiant ou étudiante. Donc, si, par exemple, on change qui reconnaît les centres de recherche, ça peut affecter les étudiants évidemment de ces centres de recherche, de centres de recherche qui, dont justement le centre de recherche pourrait être reconnu ou non. Il y a aussi bon l'aspect plus direct de la modification, comme je disais, à la composition des instances. Donc, par exemple, la commission de la recherche qui est actuellement sur laquelle siègent actuellement deux personnes de cycle supérieur, il y a une proposition de modification qui rajouterait deux personnes de premier cycle sur la commission. Donc évidemment, là, comme ça concerne la recherche, la commission de la recherche, il y a des questions à se poser, là, entre autres, là, par rapport là, à ajouter une parité du premier cycle avec les cycles supérieurs dans cette commission-là. Puis c'est sûr que la porte n'est pas fermée. Nous, on n'a pas un problème avec le fait qu'il y ait plus d'étudiants sur la commission. On souhaiterait simplement que, comme la majorité, la grande majorité des activités de recherche se font par les étudiants de cycle supérieur, qu'il y ait une certaine représentation de cette importance-là de la recherche au cycle supérieur, et donc il y ait l'ajout donc deux postes supplémentaires pour la commission de la recherche pour les étudiants de cycle supérieur, et donc pour mieux représenter comment se fait la recherche à l'université.
Excellent. Je pense que ça nous permet de mieux comprendre comment ça nous affecte, nous, les étudiants au cycle supérieur. On va faire une petite pause musicale et on vous revient à la question de savoir, on va continuer de parler des modifications de statut universitaire, mais on va aller écouter une pièce de Corridor.
De retour à
question de savoir. Aujourd'hui, comme je vous l'ai mentionné, on fait un tour d'horizon sur les modifications des règlements, des statuts universitaires. Puis je vais continuer la discussion avec Louis-Xavier. Comment nous, on voit les changements à l'allié? Est-ce que cette vision-là qu'on a est partagée par les autres acteurs de l'université, par exemple?
À l'allié, d'abord, on voit les changements, avec une certaine inquiétude. C'est sûr que on parle ici d'un travail qui est au-delà d'une simple modernisation des statuts, il y a beaucoup, beaucoup de modifications. Et comme je mentionnais précédemment, ces modifications-là entraînent des changements, entre autres, à la gouvernance de l'université. Donc, là où il y a une inquiétude, entre autres, c'est justement par rapport à la concentration du pouvoir vers le comité exécutif et le conseil d'administration, mais de notre côté, c'est beaucoup le comité exécutif parce que nécessairement, en termes de gouvernance, c'est très sain d'avoir de la reddition de compte, un certain regard d'une instance vers une autre instance, un certain aussi contre-pouvoir pour être sûr qu'il n'y ait pas de décision qui prennent sans consultation. Donc, notre inquiétude par rapport à ça en ce moment, c'est qu'à la lecture des modifications, il semble non seulement y avoir une concentration là, du pouvoir vers l'équipe de direction et sinon, dans une certaine mesure, le conseil d'administration, mais surtout, dans une certaine mesure aussi, il y a un affaiblissement, je dirais, de certaines instances qui peuvent être tout à fait pertinentes là, pour émettre justement des commentaires, des recommandations et même prendre des décisions, comme je parlais du conseil universitaire. Donc, c'est sûr que l'université, l'approche là, de Mme Richer, la secrétaire générale, était de faire une modification qui permettrait de rendre plus efficace le processus de décision à l'université à Laval. Faut reconnaître que c'est un travail qui est difficile, puis qui est attelé, donc tout notre respect en ce sens-là. Cependant, c'est sûr que c'est pas nécessairement une vision de la gouvernance universitaire qui est tout à fait compatible avec celle de l'allié. Donc, l'allié comme représentante là, des étudiants et des étudiants de cycle supérieur, c'est sûr qu'on a une vision plus démocratique de l'université. Nous, ce qu'on veut, c'est de la consultation. C'est que les décisions, quand elles arrivent au sommet, soient prises en sachant que les étudiants, les étudiantes, les professeurs, les chargés de cours se sont exprimés dans les instances et qui, ensemble, collectivement, ont pris une décision démocratique pour en arriver à une décision. On veut que quand ça arrive au sommet à l'équipe de direction, il y ait... Justement, il y a eu des consultations, que ça a été discuté, qu'on a pu émettre nos avis là-dessus. Et concrètement, l'inquiétude là, qu'on porte, notamment là, avec cette modification-là, c'est que dans une certaine mesure, là, il y aurait maintenant certains projets, certains sujets dont le processus décisionnel commencerait à l'équipe de direction et finirait à l'équipe de direction sans être passé par la communauté, sans être avoir été discuté dans des instances pertinentes pour le faire, justement parce que ces instances-là sont affaiblies. Donc, c'est sûr qu'il y a une inquiétude à ce niveau-là, puis en tant que tel, on est encore en processus de consultation, puis je ne veux pas non plus parler pour d'autres acteurs, mais c'est sûr que dans les personnes qu'on a rencontrées jusqu'à présent, je ne nommerai pas, mais il y a une inquiétude par rapport à ça, une inquiétude par rapport à la possibilité donc de ne plus être tout à fait consulté alors que ça reste pertinent de le faire. Donc, on a des acquis à l'Université Laval comme communauté, dans le sens où nous, on peut, contrairement à d'autres universités d'ailleurs, là, on peut se prononcer, on a intégré cette structure décisionnelle-là. Puis ça, c'est un atout. C'est un atout certain. Et... rendre certaines de ces instances-là caduques ou juste consultatives, mais non décisionnelles, ça peut être problématique à bien des égards. Donc, c'est sûr qu'en termes de gouvernance, on comprend l'idée de vouloir faciliter le processus de décision, mais ça vaut pas le coup de faciliter le processus de décision si c'est pour enlever l'aspect consultation, parce que la communauté a des choses pertinentes à dire, puis ça semble pas être reconnu à travers cette modification de la DSAQ.
Non, tout à fait. Puis ça nous permet de mentionner aussi qu'à l'Allier, une de nos positions, c'était que les élections au rectorat, donc ce qui va se passer à l'hiver, soient faites en suffrage universel des membres de la communauté universitaire respective. Donc là, présentement, ces modifications-là, si je comprends bien, donneraient moins de pouvoir aux voix étudiantes qui sont sur les comités, les commissions. C'est ce que je comprends.
Ben, en fait, c'est variable. Sur certaines instances, là, il y aurait plus de membres non-étudiants et donc une dilution du pouvoir étudiant sur ces instances-là. Sur d'autres, par exemple, en fait, le seul exemple que je suis capable de donner, là, c'est la commission de la recherche. Encore là, ce n'est pas pour c'est un ajout de deux membres de premier cycle. Concrètement, ce qu'on veut puis ce qu'on pense qui est pertinent, c'est que ce soit des étudiants de cycle supérieur, espérant que c'est sur la recherche. Et c'est la seule instance où il y a un gain en termes de nombre d'étudiants. Pour les autres, il y a l'ajout d'autres acteurs, mais jamais plus d'étudiants. Donc, c'est sûr qu'effectivement, il y aurait une diminution du pouvoir étudiant sur ces instances-là, mais aussi sur le collège électoral pour les élections. Alors que, effectivement, si la position d'allier était prise en compte, puis qu'on allait effectivement vers des élections au suffrage universel pour le rectorat, ça veut dire que l'ensemble de la communauté étudiante, professeurs, chargés de cours, auxiliaires, tous les étudiants pourraient se prononcer sur les élections au rectorat, puis choisir essentiellement la direction de l'université pour 5 ans. Donc, voilà.
Puis, tu nous en parlais au début de l'émission, mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'acteur de la communauté étudiante pour que l'université peut-être fasse marche arrière ou entende ce que les étudiants, ce que les chargés de cours, ce que les auxiliaires, ce que les professeurs peuvent avoir à dire?
Ouais. Notre démarche, parce que là, comme je disais, là, effectivement, on a jusqu'au 15 octobre pour soumettre des commentaires sur les modifications de nos statuts. Donc, ce que l'Allier entreprend comme démarche, c'est de produire un avis sur la question. Donc, il y a un avis qui a été rédigé, qui est toujours en train d'être bonifié et qui va être soumis à notre conseil d'administration demain soir. Au-delà de ça, nous, on produit l'avis. On va le soumettre d'ici le 15 pour faire valoir notre opinion à Mme Richer sur les modifications au statut. Mais on continue, comme je disais, les consultations d'autres acteurs de l'université. Et jusqu'à présent, il semble justement avoir une certaine vision commune là, par rapport aux modifications qui sont apportées à la gouvernance de l'université. Et donc, en ce sens-là, bien, c'est sûr qu'une fois que nos avis, mémoires, commentaires sont émis dans le cadre du processus actuel, mais ça va être notre tâche de s'assurer qu'on se fasse bien entendre collectivement sur nos positions qui sont communes pour que l'université adapte sa modification des statuts à essentiellement à ce que la communauté lui dit qui serait le mieux. Il y a aussi le fait que justement, comme on s'approche des élections au rectorat, nous pensons qu'il serait préférable que ces modifications-là soient retardées à après les élections rectorales, parce que concrètement, si Mme Richer devait aller de l'avant présenter ces modifications-là au conseil d'administration en décembre, ça voudrait dire qu'on aurait très peu de temps pour s'adapter à la modification, pour élire des personnes sur des instances, comme si jamais il y avait ajout de personnes de personnes de cycle supérieur sur ces instances-là. Donc, concrètement, ça pourrait débalancer là, le collège électoral par rapport à ce qu'il est actuellement. Donc, nous, on croit que ça serait préférable que ce soit reporté après les élections au rectorat. Après ça, peu importe qui est recteur ou rectrice, il y aurait possibilité là, pour d'aller de l'avant, de continuer les modifications. Et ce qu'on espère aussi, c'est que justement, il va y avoir plus de temps qui va être donné à ce projet-là pour qu'on puisse continuer des consultations, qu'on puisse mieux s'exprimer là-dessus, parce que concrètement, il y a eu processus de consultation, mais l'Allier a été consulté qu'à une seule reprise en décembre 2019, et n'a plus jamais entendu de nouvelles de cette modification-là jusqu'à temps qu'elle paraisse cet été. Donc, nous, on ne considère pas que c'est suffisamment de consultations. Et donc, il va falloir qu'on encourage justement le report de l'adoption de ces modifications-là et la continuation du processus de consultation pour arriver à un projet qui soit satisfaisant.
Merci beaucoup, Louis-Xavier, pour ce survol des modifications des statuts universitaires. C'est ce qui met fin à la question de savoir pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Pour les petites annonces de l'Allier, le 20 octobre prochain à 11h30 sur Zoom, l'Allier tient son forum sur la liberté académique. Donc, la liberté académique, c'est un des enjeux qui est au cycle supérieur. On va avoir besoin de votre avis sur cet enjeu. On va vous soumettre des questions à l'Assemblée qui sera présente sur Zoom pour que vous puissiez mieux formuler les positions de l'Allier sur la liberté académique. À noter aussi, nos retraites de rédaction se poursuivent actuellement. Si jamais vous voulez vous impliquer ou si jamais vous voulez participer, le formulaire pour le mois d'octobre est sur notre site Internet. Et aussi, si jamais vous voulez vous impliquer, par exemple, pour un comité de mobilisation ou un comité quelconque, il reste des postes vacants sur nos comités, commissions et conseils. Donc ça fait partie de ce qu'on fait à l'Allier côté mobilisation et côté implication. Puis on vous souhaite vraiment une belle journée sur les ondes de Chiz 94.3. Merci encore Louis-Xavier, puis on vous souhaite une belle journée.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3. Mm-hmm.
bord de la rivière Saint-Charles. Boisé sur le slalom, music a zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu te demandes c'est quoi le prog? T'aimerais en savoir plus? À l'émission L'ère du progrès, on revisite la naissance et l'évolution de la musique progressive sous toutes ses formes, puis on analyse son contenu pour mieux la comprendre. Le prog aura jamais été aussi accessible. Si ça t'intéresse, c'est les lundis soirs de 22h à 23h à Chiz 94.3 ou au www.chiz.ca. À bientôt!
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours Guillaume Bédard qui vous parle au micro en ce mardi 12 octobre 2021 pour Un phare dans le midi, votre émission quotidienne.